fait la mort, et nous avons vu dans l'Ancien Testament que l'idée générale, c'est que quand on est mort, on va dans le séjour des morts. Voilà, il y a un mot en hébreu, le Sheol, pour dire qu'on va dans le séjour des morts. C'est un mot assez vague qui rassemble ceux qui sont morts dans le domaine souterrain des morts, le monde des ombres. Mais un monde où les morts sont quand même conscients. Ésaïe 14, par exemple, nous le dit. Mais c'est un monde d'où on ne revient pas. Et cela n'a pas changé aujourd'hui. Quand on est mort, on est bien mort et on ne revient pas, sauf pour les personnes qui ont été ressuscitées par Jésus. Il y en a trois. Et Jésus lui-même. Ou peut-être même celles que Dieu peut encore ressusciter aujourd'hui. Mais la promesse d'une vie après la mort et de l'anéantissement de la mort est bien présente tout au long de l'Ancien Testament. Et la réponse de Jésus aux Sadducéens qui l'interrogent sur la résurrection des morts, et vous savez, il y avait deux grands partis religieux en Israël à l'époque de Jésus, les pharisiens et les Sadducéens. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts et les Sadducéens n'y croyaient pas. Et ils viennent poser une colle à Jésus en lui disant, voilà, il y a un homme qui était marié, puis sa femme est décédée, alors il s'est remarié, puis sa deuxième femme est décédée, et ainsi de suite pendant 7 fois. Alors, si la résurrection des morts existe, laquelle d'entre elles, d'entre ces femmes, sera sa femme dans le royaume de Dieu ? Pardon ? Oui, peu importe. Non, parce qu'il a eu 7 femmes, donc laquelle de ces femmes sera sa femme, non ? C'est pas ça, enfin peu importe, mais vous irez revoir dans le texte biblique, c'est pas ça l'important. Mais Jésus, donc, il pose à Jésus, donc, qu'est-ce qui se passera dans le royaume de Dieu par rapport à ces différents mariages ? Et Jésus répond en disant que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué. Lorsqu'il est question du buisson ardent, il fait référence à l'épisode de Moïse qui est rencontré par le Seigneur dans ce buisson ardent qui ne s'éteignait pas. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que pour lui, les patriarches sont tous les trois vivant. Une note de la Bible du Semeur, la Bible d'étude, dit ceci: Dieu n'aurait pas associé son nom à Abraham, Isaac et Jacob si ceux-ci avaient définitivement cessé d'exister. Oui, Dieu est le Dieu des vivants, malgré la mort, même après la mort de ceux qui avaient été ses interlocuteurs, ceux qu'il considérait comme ses enfants, même dans l'Ancien Testament. Et la grande nouvelle qu'annonce le Nouveau Testament, c'est qu'avec la venue de Jésus, le Sauveur annoncé, les promesses d'une vie après la mort deviennent réalité pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, mort et ressuscité. Jésus accomplit ses promesses de l'Ancien Testament. Oui, ces promesses de l'Ancien Testament, ces prophéties, deviennent réalité. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant, non pas dans un monde à venir, mais au moment même où Jésus était sur terre, et bien sûr, encore aujourd'hui. Le Nouveau Testament déclare clairement que Jésus a vaincu la mort après l'avoir subie. Il l'a vaincu en sortant vivant du tombeau. C'est l'un des fondements de notre foi. La résurrection de Jésus, c'est le socle solide de notre foi en la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul dit « le dernier ennemi », c'est ainsi qu'il appelle la mort, « a été vaincu à la croix, même si la victoire totale éclatera seulement lorsque Jésus reviendra dans toute sa gloire à la fin des temps. » Et par voie de conséquence, et là je cite encore l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, « Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Hébreux 2,14 nous dit « Il a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Et je vous lis encore dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 11 à 13, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Nous avons la vie éternelle. Non pas nous aurons, mais nous avons la vie éternelle. Voilà la grande nouvelle qu'on trouve aussi dans ce verset très connu de Jean 3,16. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle que nous avons reçue? Je vous disais que cette expression « vie éternelle » n'était citée qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, Daniel 12. Mais elle foisonne dans le Nouveau Testament. J'ai fait un petit calcul, une cinquantaine de fois au moins dans l'Évangile de Jean, plus si on compte aussi dans sa première épître. Et on la trouve aussi maintes fois chez l'apôtre Paul. Alors l'expression « vie éternelle » désigne moins une vie sans fin, éternelle, dans le temps, que la présence de Dieu en nous. La vie éternelle, c'est le royaume de Dieu au milieu de nous, ou en nous. Jésus a dit « le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Et c'était lui, c'était sa présence qui le manifestait, ce royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se manifeste aussi par la présence de Dieu en nous. Et cette vie éternelle, elle est aussi appelée tout simplement la vie, dans bien des passages de l'évangile de Jean notamment. Par exemple, tout au début de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 4, en elle, c'est-à-dire en la parole, hein, ou en celui qui était la parole, donc en lui, en Jésus, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette vie est différente de notre façon courante de penser à la vie. Qu'est-ce que c'est que pour nous la vie? Ben c'est voilà, notre cœur qui bat, le fait que je parle maintenant, je suis vivant, je ne suis pas mort. Voilà, donc on fait la différence entre ceux qui sont morts et qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus bouger, et ceux qui sont vivants. Jésus se nomme lui-même la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ou encore, je suis la résurrection et la vie. Vous imaginez quelqu'un, enfin, je sais pas, disons un homme peut-être important, un roi ou un philosophe, ou enfin voilà, n'importe qui se mettrait sur une place publique et qui dirait « Je suis la résurrection et la vie ». Que penseriez-vous de lui ? Il est fou, voilà, tout simplement. Il a perdu la tête. Il ne sait plus ce qu'il dit. Pourtant, nous ne disons pas que Jésus est fou ou qu'il a perdu la tête. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Et parce que la vie vient de Dieu. Elle ne vient pas du hasard. elle vient de Dieu. Alors quand Jésus dit « Je suis la vie », il ne pense pas à cette vie psychique que nous avons dans notre corps, avec un cœur qui bat, comme nous avons tous reçu à la naissance et même avant, mais une vie que donne l'Esprit de Dieu, que donne Dieu, une vie qui vient de l'Esprit. Et Jean 6, 63 nous dit, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair, donc la nature humaine, ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est pourquoi Jésus peut dire, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Jésus a rétabli le peuple de Dieu dans le lieu de la bénédiction que Dieu a toujours voulu pour son peuple, qui n'est pas un lieu géographique, Israël par exemple, mais c'est le lieu de la relation intime avec Dieu. C'est-à-dire que là où est cette relation personnelle et intime avec Dieu, là est le lieu de la bénédiction. Et cela nous renvoie à Deutéronome, chapitre 30, vous connaissez tous, je pense, ce passage que nous lisons souvent, où Dieu dit, c'est à la fin du livre de Deutéronome, hein, le Deutéronome résume un peu ce que tout a été fait, a été dit dans le livre de l'Exode, Lévitique, Nombre, voilà, et Moïse arrive à la fin de sa vie, d'ailleurs il meurt à la fin du Deutéronome. Hein. Et Dieu dit, par la bouche de Moïse, par ce livre du Deutéronome, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » C'est Deutéronome 30, 19 et 20. « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » En aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre et que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Là aussi, il est évident que lorsque Dieu parle de la vie, il ne parle pas de la vie que nous avons reçue à notre naissance. C'est une autre vie. C'est une vie avec Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et un peu plus loin, chapitre 32, ce qu'on appelle le cantique ou la prière de Moïse, un très beau chant, une magnifique prière, où Moïse dit à son peuple qu'il va bientôt quitter, « N'est-il pas ton père, ce Dieu-là ? N'est-il pas ton père ? » Je crois même que c'est la première fois que nous avons cette idée de Dieu comme père dans l'Ancien Testament. Deutéronome 32, verset 6. « N'est-il pas ton père, celui qui t'a produit ? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi ? » Et au verset 18, « Tu as dédaigné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » Eh bien, si ça, ce n'est pas une nouvelle naissance, je ne sais pas ce que c'est. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait cette idée de nouvelle naissance pour ceux qui faisaient de Dieu leur Dieu, à qui ils obéissaient, et qui était aussi leur rocher dans leur vie. Cette vie-là, celle que Dieu voulait donner à son peuple, et que tous n'avaient pas par leur naissance naturelle, ce n'est pas parce qu'ils se disaient fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par les liens du sang qu'ils l'étaient. L'apôtre Paul a toute une démonstration là-dessus pour dire que le véritable enfant d'Abraham, c'est ceux qui mettent leur foi en Dieu et ensuite en Jésus. Et Paul écrit dans les Éphésiens, au chapitre 2, versets 1 à 5, « Quant à vous, donc il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse et d'ailleurs, quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois. Puis un petit peu plus loin, mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu nous a rendus vivants avec le Christ. Vous étiez morts. Et puis il y a aussi toute cette idée que l'apôtre Paul développe dans l'épître aux Romains, mais aussi dans l'épître aux Colossiens et peut-être ailleurs. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Ensevelis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être mis dans la tombe. Donc être mort en général, il vaut mieux d'ailleurs ne pas mettre des vivants dans la tombe. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, ensemble, en lui, par la foi de l'action de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes donc des morts ressuscités. Alors bien sûr, c'est spirituellement qu'il faut voir cela. C'est, comment dirais-je, une image, mais une image très forte de la réalité spirituelle qui est en nous. Mais c'est étonnant de dire que ceux qui sont vivants, donc tous ceux qui nous entourent, et nous aussi, avant d'être chrétiens, sont considérés comme des morts. Et que ceux qui sont morts, parce que les chrétiens ont été ensevelis avec le Seigneur, et ceux qui sont morts ou qui ont été morts sont devenus des vivants. Alors on s'aperçoit que quand Dieu ou Jésus parle de la vie, ils ont une autre définition que celle du dictionnaire qui dit que la vie, c'est la cessation définitive de la vie. Ça, c'est la définition du Robert. La mort, c'est la cessation définitive de la vie. Pourquoi ? Parce que l'horizon de Dieu et de Jésus est plus vaste qu'une simple vie terrestre. Parce qu'ils tiennent compte du Dieu créateur qui est la vie, immortelle, éternelle, et qui se constitue un peuple, j'allais dire à son image, mais vivant comme lui est vivant, de sa nature, éternellement. Et puis, ils disent, Dieu et Jésus, que nous étions comme des morts en raison d'une cause qui est présente dans toute la Bible depuis ses premières pages et que l'apôtre Paul résume en ces mots, le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Autrement dit, et cela il le développe aussi dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul, tous ceux qui ont péché sont des morts, sont des créatures non seulement mortelles, mais sont morts à cause de leur péché. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, Jean chapitre 3, qui vient lui poser la question, que faut-il que je fasse pour voir le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Et on peut traduire indifféremment, naître de l'esprit ou encore naître d'en haut. L'apôtre Paul considère donc que les chrétiens sont des morts, mais des morts ressuscités. Et je crois que nous avons tendance à minimiser cette réalité de notre vie en Christ, comme le monde, ceux qui nous entourent, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, minimisent la gravité de leur péché, d'être considérés comme pécheurs aux yeux de Dieu. Et je crois que toutes les religions, sauf la religion biblique, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, minimise aussi la question du péché. C'est une chose très grave aux yeux de Dieu, puisque cela nous a coupés de la vie. Cela a amené la mort avec son cortège de souffrances, avec la maladie, etc. Mais nous étions morts parce que nous étions des pécheurs. Mais Christ nous a donné la vie, et c'est par la foi que nous l'avons reçue, parce qu'il était vainqueur de la mort, et parce que Dieu est le Dieu de la vie. Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7 encore, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » C'est ce que signifie notre baptême. Relisez Romains 6, par exemple, où le baptême, c'est le symbole de notre mort et de notre résurrection. L'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce qui veut dire que notre histoire n'est pas terminée avec notre baptême ou notre vie chrétienne ici-bas. Il y a autre chose aussi dans la vie éternelle. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était plus une relation intime avec Dieu que une durée éternelle, mais il ne faut pas supprimer non plus cette durée éternelle, parce que Dieu est éternel et parce qu'il nous donne aussi la vie éternelle, une vie qui ne s'arrêtera pas. Et 1 Corinthiens 15 est un chapitre très fort que vous pourrez relire et qui nous montre combien nous sommes actuellement dans des choses périssables, mais nous sommes appelés à une vie impérissable. Et il démontre que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Nous sommes les plus malheureux ou peut-être les plus stupides de tous les hommes. Mais Jésus est véritablement et vraiment ressuscité. Et nous aussi, nous sommes comme ressuscités avec lui. Et dans ce chapitre 15 d'un Corinthien, il fait la démonstration que, voilà, nous attendons un monde nouveau et une vie nouvelle. Mais ce qui est curieux, c'est que il ne s'arrête pas à cette considération, à cette exaltation. À la fin de ce chapitre 15 d'un Corinthien, c'est comme s'il redescendait sur terre. Et il écrit, c'est pourquoi, c'est donc une conséquence logique de cette résurrection des morts à laquelle nous allons participer, si le Seigneur ne revient pas avant. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, dit la Bible, traduit la Bible du Semeur. Mes chers frères et sœurs, le mot sœur n'est pas dans le texte, mais ça veut dire cela, parce que ça s'adresse aussi, bien entendu, aux sœurs. Soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Et souvent, nous arrêtons là ce chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Mais il faut lire aussi le début du chapitre 16, parce que pour l'apôtre Paul, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, donc c'est sa pensée qui continue. Et il continue en disant, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens. » On critique souvent les chrétiens, enfin, le « on », c'est ceux qui ont tendance à toujours critiquer les chrétiens, parce qu'eux sont mieux que les chrétiens. On critique souvent les chrétiens de trop s'occuper du ciel et pas assez de la terre. Eh bien, c'est faux, car on ne peut pas être chrétien et rester indifférent aux besoins de notre prochain. Et on ne peut nier que les chrétiens se sont beaucoup investis pour le bien de leurs semblables, dans des actions personnelles ou collectives, tout au long de l'histoire du christianisme. Il n'en reste pas moins que notre espérance est en Christ, qui a vaincu la mort par sa résurrection. Nous attendons sa venue en gloire. Et je termine par ce magnifique verset de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à une gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Et je me rappelle que j'ai oublié de vous mentionner une réflexion d'un cinéaste humoriste que vous connaissez peut-être, dont vous avez entendu parler, Woody Allen, qui a dit « Je ne veux pas être immortel par mes œuvres, je veux l'immortalité en ne mourant pas. » Effectivement, à quoi ça sert d'avoir, par exemple, son nom sur une plaque d'une rue? Ça me sera complètement égal quand je serai mort, et même aujourd'hui, si la rue du Nizran, la mairie décide de la baptiser la rue Marqueret. Mais je m'en fiche, mais complètement, mais ça n'a aucune incidence sur ma propre vie. Et pourtant, on honore les personnages semblables, et je ne dis pas que c'est mal, hein. C'est bien d'honorer aussi les gens de ce qu'ils ont fait de bien dans leur vivant, ou les grands hommes, comme le général de Gaulle, par exemple. Pourquoi pas? Mais ça ne change rien à leur sort éternel. En revanche, ce que Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie », celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais, c'est incroyable, là aussi. C'est de la folie de dire que quelqu'un ne mourra pas, mais Jésus ne voulait pas dire que Marthe ne connaîtrait pas la mort, mais que cette mort serait un passage pour accéder à une vie où on verra face à face le Seigneur et non plus par la foi comme on le voit maintenant. Eh bien, mon cher Woody Allen, si je peux me permettre cette familiarité, mais je ne le connais pas du tout, hein. Voilà la réponse à votre question, à votre désir, c'est Jésus qui la détient. Gloire lui soit rendue. Amen.